Daniel Gonneau, la porte-parole de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, jointe par Guillaume Thibault. Ici à Paris, il est 5h42.
Afrique Matin sur RFI.
Afrique Matin à suivre, reportage en Côte d'Ivoire où les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à utiliser des drones plus efficaces et moins fatigants. On parlera aussi du gel de l'aide extérieure américaine, la décision de Donald Trump au tout premier jour de son deuxième mandat, la décision pleine de conséquences, vous l'entendrez, pour des projets dans de nombreux pays africains. Direction ensuite le Gondwana comme tous les jours, Maman et sa chronique de la très très démocratique République. Mais avant ça, les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Xavier.
On commence ce journal des sports avec un anniversaire, celui que les supporters ivoiriens n'ont pas manqué de célébrer à Abidjan.
Près de 4000 personnes réunies au complexe Jesse Jackson de Yopougon pour revivre sur grand écran l'une des plus belles émotions de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, le miracle de Bouaké, la victoire sur le fil en quart de finale face au Mali. L'occasion de revivre évidemment les émotions de l'année dernière sous les yeux de Youen Gourlay.
Après une première mi-temps relativement calme, certains supporters ivoiriens ont suivi le match comme s'ils le visionnaient pour la première fois. Lors de l'ouverture du score du Mali à la 71e minute, ils ont surjoué la déception avant de crier de joie et de danser sur l'égalisation ivoirienne. Un match mémorable pour le supporter Armand Joël.
C'est un match très très important qui nous a beaucoup motivés. C'était le match vraiment disons de la CAN. Quand tu supportes ton pays et que la CAN en plus se déroule sur ta terre, c'est des moments qu'on ne peut pas expliquer.
Sur le t-shirt des supporters ivoiriens hier soir, deux numéros devenus des symboles, 89 et 17. À la 89e minute et 17 secondes, Simon Adingra est dans la surface, dribble les joueurs maliens et égalise. Pour beaucoup, le tournant de la CAN est un moment fédérateur, comme nous l'explique Oumar Sako, l'un des organisateurs de l'événement.
C'était un match qui nous a fait passer par toutes sortes d'émotions. On a joué à 10, on a été dominé, on a fait preuve de courage, on n'a jamais été découragé et c'est ce message-là qu'on veut faire passer. On a vu autour de ce match l'unité nationale.
La suite, on la connaît, Oumar Diakité marquera au bout des prolongations. La Côte d'Ivoire battra ensuite la RDC en demi, puis le Nigeria en finale. Une CAN à jamais gravée dans le cœur des Ivoiriens. Youen Gourlay, Abidjan, RFI.
Et football aussi avec le mercato hivernal qui s'est clôturé hier soir en Europe et l'Olympique de Marseille s'offre un champion d'Afrique.
Ismaël Benacer, sacré avec l'Algérie en 2019, le milieu de terrain local de l'étape hein, puisqu'il est né à Arles à moins de 100 km de Marseille et qui était un peu en échec à l'AC Milan, miné par des blessures. Benacer est prêté par le club lombard avec une option d'achat dont le montant n'a pas été révélé.
En Italie justement, Christian Kwame passe de la Fiorentina à Empoli.
L'Ivoirien n'aura joué que 18 match pour deux passes décisives avec la Viola. Kwame, 27 ans, va tenter de profiter de son prêt en Toscane pour retrouver du temps de jeu et peut-être retourner en équipe nationale, lui qui n'a plus été convoqué chez les éléphants de Côte d'Ivoire depuis septembre dernier.
Et on termine, Antoine, avec le basket. Pascal Siakam mène les Pacers face au Jazz de l'Utah.
Et l'ailier camerounais a sorti une énorme performance, 22 points, 6 rebonds et 4 passes pour permettre à Indiana, quatrième de la conférence Est, de s'imposer 112 à 111 après avoir bataillé sur le parquet du Jazz, dernier de Conférence Ouest. Toujours côté camerounais, Yves Missi, le pivot de la Nouvelle-Orléans, a participé à la défaite des Pelicans face à Denver, quatrième de Conférence Ouest. Auteur de 8 points, 6 rebonds et 3 passes, Missi n'a pas pu éviter le succès des Nuggets, 125 à 113.
Merci Antoine Grenier, c'était le journal des sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
L'actualité internationale de ce mardi 4 février, c'est la hausse des droits de douane américains qui devait entrer en vigueur aujourd'hui, mesure annoncée par Donald Trump dans son bras de fer commercial et diplomatique avec le Canada et le Mexique. Finalement, la décision est suspendue pour un mois, le temps de discuter. Ces derniers jours d'intenses discussions ont eu lieu entre Washington, Ottawa et Mexico. Canada et Mexique s'engagent notamment à mieux surveiller leurs frontières communes avec les États-Unis et le Canada s'engage aussi à mieux lutter contre le trafic de fentanyl, une drogue qui fait des ravages. Hier soir, toujours aux États-Unis, les employés de l'USAID ont reçu l'ordre par courrier électronique de ne pas se rendre à leur bureau. Pour Donald Trump, l'agence américaine pour le développement est dirigée par des fous extrémistes qu'il faut virer. Fin de citation. C'est un secteur qui représente un cinquième de l'économie ivoirienne. On s'intéresse ce matin au secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire où ces dernières années, les champs ont vu apparaître des drones, des engins pilotés à distance qui servent aujourd'hui principalement pour appliquer les produits phytosanitaires. Reportage de Marine Janin à Sokrogbo, l'un des villages adeptes de ces nouvelles technologies, est dans la région de Lagné-Bitiassa, à 2 heures de route environ au nord-ouest d'Abidjan.
Dans ce petit village de planteurs, il y a un spectacle dont on ne se lasse pas, le décollage du drone agricole T10, une machine de 25 kg capable de pulvériser jusqu'à 4,8 litres de pesticides à la minute. Marina Wankofi, agrotechnicienne et pilote de drone, explique le procédé devant une foule d'enfants curieux.
Je place le drone là. On finit de délimiter d'abord avant de voler le drone. Si le produit finit dans le drone, il vient se poser. S'il y a encore des parties qu'on n'a pas traitées, on met le produit dans le fût et ivre et tout. Je ne me mets pas proche du drone, je m'éloigne un peu et puis tous ceux qui veulent regarder se mettent derrière moi. Ils sont curieux de savoir, ils appellent ça petit avion.
Ce drone a été fourni par Investive, une jeune entreprise ivoirienne. Dans ce centre de service, elle vend des produits phytosanitaires et loue les services de son drone aux planteurs. Parmi ses clients, Banouri Koulibaly, 60 ans, qui cultive le palmier à huile sur une parcelle partagée de 25 hectares. Lui qui avait utilisé toute sa vie les pulvérisateurs à dos, a été séduit par cette technologie plus rapide et plus efficace.
Quand on m'en a parlé, j'ai voulu essayer le traitement au drone pour voir si c'était vraiment mieux. Et effectivement, c'est plus efficace. J'ai tout de suite compris que ça allait améliorer ma productivité. Comme il pulvérise d'en haut, il peut atteindre la cime des palmiers alors qu'on n'y arrive pas d'en bas. Là où le drone est passé, les feuilles sont plus vertes et le régime de noix de palme est plus lourd.
Sans compter l'avantage économique, dans ce centre, l'épandage par drone est facturé 10 000 francs CFA par hectare, alors que la main-d'œuvre pour l'épandage manuel coûte 2 à 3 fois plus cher. Malgré un milieu traditionnellement conservateur, les agriculteurs se sont donc vite laissés convaincre, souligne l'un des plus jeunes d'entre eux, Hervé Kwaku Kofi.
Les choses changent de jour en jour. L'agriculture est passée de phase archaïque à une phase mécanique. Nous jeunes d'aujourd'hui, à mon âge de 34 ans, là, nous on ne fait que suivre ce qui sera encore plus facile pour nous. Avec le drone, en un temps record, le travail est déjà fait. Il y a la santé, travailler avec le drone, c'est la meilleure façon de pouvoir être en bonne santé. Parce que si tu as les grandes superficies que tu dois mettre les pulvérisateurs à dos, là, c'est fatigant et puis il y a les risques de contamination avec les produits, tout ça.
L'épandage n'est qu'une des utilisations possibles des drones en agriculture. La même entreprise propose également des services de photographie aérienne, de relevés topographiques et de collecte de données et laisse la porte ouverte à d'autres usages à l'avenir puisque la technologie des drones évolue de manière extrêmement rapide dans ce secteur aussi. Marine Janin de retour de Sokrogbo, RFI.
Et demain, le reportage Afrique sera à Tunis. Notre correspondante en Tunisie s'est mise en quête du mausolée de la sainte soufie Saïda Manoubia. L'Ukraine et le Nigeria en sont les principaux bénéficiaires et donc les premières victimes aussi de l'une des premières décisions de Donald Trump pour son retour à la Maison-Blanche. Le président américain a décidé de geler pour 3 mois l'aide extérieure au développement délivrée par les États-Unis. 3 mois, le temps de mener une évaluation de la manière dont les États-Unis dispensent ces fonds. Et aujourd'hui, les pays francophones du continent africain risquent aussi de pâtir du gel de cette aide américaine. Afrique Économie, Charlotte Cossé.
Premier pays francophone bénéficiaire, la République démocratique du Congo, avec une aide avoisinant le milliard de dollars, dont plus de la moitié est consacrée à l'aide humanitaire. Pour Jacques Moukena, spécialiste gouvernance et économie à l'Institut congolais Ebouteli, un soutien essentiel dans le contexte actuel.
Surtout dans l'est du pays, avec cette catastrophe humanitaire que le pays traverse dans l'est du pays avec les réfugiés, ce sera très très important, le pays en aura absolument besoin.
Pour le chercheur, les États-Unis pourraient conditionner le maintien de ces aides.
Je pense qu'il y aura peut-être une obligation pour le pays de s'aligner un peu sur les intérêts stratégiques des États-Unis. Les États-Unis pourraient peut-être exiger une réduction de l'influence chinoise, surtout sur le contrôle des minerais stratégiques comme le cobalt et le coltan. Les États-Unis pourraient peut-être demander à la RDC de tenter de réduire cette influence chinoise.
Sur le continent, les États de l'AES profitent également de l'aide américaine. 720 millions de dollars répartis entre les pays de l'Alliance. Une somme moindre que d'autres, mais stratégique.
C'est un gros coup dur, mais aussi un gros manque à gagner.
Ibrahim Adamoulouché, économiste indépendant nigérien.
Ces pays déjà rencontrent actuellement des difficultés à mobiliser des financements des financements internationaux s'est tari à raison des sanctions économiques et financières qui leur ont été infligées quelques mois auparavant. À cela s'ajoutent des difficultés aussi à mobiliser des ressources internes, notamment les emplois, à raison du contexte économique local donc qui est exsangue. Et le fait qu'encore elle se voit privée de ces financements risque de compromettre de nombreux projets de développement.
Dans des États qui priorisent notamment les budgets de défense, l'aide américaine se tourne vers des secteurs moins dotés comme la santé ou l'agriculture. C'est le cas avec le Millennium Challenge au Niger, explique Ibrahim Adamoulouché.
Millennium Challenge, c'est un programme qui met beaucoup l'accent sur le domaine agricole, qui accompagne le pays pour exploiter son potentiel agricole grâce à la construction d'infrastructures, d'adduction d'eau, par ricocher l'agriculture de contre-saison. Donc c'est la pérennité des relations qui risque d'être impactée et au final avec des impacts sur la population qui sont censés sortir d'une certaine manière de la pauvreté.
En plus de ce gel, se pose la question du futur de l'AGOA, cet accord commercial qui permet à certains produits africains de rentrer sur le marché américain sans frais de douane. Cet accord expire en septembre prochain.
À Washington, il est 23h52. 6h52 à Tripoli. On parle maintenant avec notre invité de ce qui est l'une des ramifications du procès en ce moment de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, jugé pour le financement présumé par la Libye de sa campagne électorale victorieuse de 2007. La Libye, dirigée alors par Muammar Kadhafi, est l'un des volets de ce pacte présumé de corruption. C'est le sort judiciaire d'Abdallah Senoussi, beau-frère du dirigeant libyen, condamné en France pour son rôle dans l'attentat en 1989 contre le DC-10 d'UTA. Aujourd'hui, donc, notre invité Afrique est le journaliste Vincent Nouzil. Il publie avec Karl Lasquet « L'assassin qu'il fallait sauver », un livre dans lequel il présente notamment de nouveaux éléments sur la culpabilité d'Abdallah Senoussi. Vincent Nouzil qui répond ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier.
Alors nous nous basons avec Karl Lasquet, donc journaliste à Mediapart, sur une série de documents libyens qui nous ont été fournis par un imprimeur libyen, Samir Chagouara, et il a eu accès à des archives d'Abdallah Senoussi. C'était le chef des services secrets libyens, c'était le numéro 2 ou 3 du régime de Kadhafi, et c'était le beau-frère de Kadhafi également. Et ces documents donnent à voir les préparatifs très minutieux de ces attentats. Et c'est ça que c'était intéressant, parce que on avait une vision évidemment partielle, parcellaire, de la responsabilité directe d'Abdallah Senoussi. Et là, dans les documents, il y a par exemple des réunions qui se passent au siège des services secrets, donc avec Abdallah Senoussi, qui donnent des consignes pour frapper des avions français. Il y a aussi, par exemple, des tests qui sont faits par les services secrets libyens sous la conduite d'Abdallah Senoussi dans le désert libyen pour tester des explosifs et aussi des valises piégées.
Alors, 10 ans après cet attentat, en 1999, Abdallah Senoussi est donc condamné par la justice française. Mais le colonel Kadhafi essaie de faire réviser ce jugement. Il semble qu'il en parle d'abord au président Chirac, puis au ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, lors d'une visite de celui-ci à Tripoli. Comment réagit Nicolas Sarkozy?
Il est à l'époque ministre de l'Intérieur, nous sommes en octobre 2005. Oui, il va à Tripoli et le guide en parle effectivement à Sarkozy lors de sa visite du 6 octobre 2005. Et c'est ce que la justice française suspecte, qu'il y a peut-être eu un arrangement, un deal secret entre l'équipe de Sarkozy et Kadhafi. Nous allons vous donner de l'argent pour votre campagne électorale, en échange de quoi il faudra régler le problème de Senoussi.
Le journaliste Vincent Nouzil avec Christophe Boisbouvier. Entretien complet à écouter dans une heure. Et c'est l'heure de la chronique du Gondwana. Maman, vous nous dites ce matin qu'en Gondwana, la double nationalité est très en vogue.
Oui, dans les rues de Gondwana, c'est une autre belle capitale, tu ne peux pas les louper. Ces Gondwanais dans leur gros 4x4 rutulant, jantes chromées, vitres fumées, gros gamos, dont je ne donnerai pas le prix ici, de peur de provoquer une épidémie d'AVC parmi vous, chers auditeurs. Dès qu'ils passent à grande vitesse dans de gros nuages de poussière qui te colorent ensuite toute la chevelure et le visage comme du fond de teint, t'entendras un gars à côté de toi dire tout doucement, eh, ces gars-là, ils ont tous la double nationalité, hein. Tu vois leur gros 4x4 ensuite entrer et se garer dans le parking du plus grand hôtel de la capitale. Tu les vois en descendre, lunettes noires sur le nez, sapés comme jamais en fonction des us et coutumes du coin, toujours accompagnés d'une flopée de gens, bimbo, porteurs de sacs, porteurs de téléphones portables, gardes du corps, etc. Tu entendras les vigiles et les clients de l'hôtel chuchoter tout doucement, eh, double nationalité, ils ont la double nationalité. Bon, chers auditeurs, je suis sûr que tu es en train de penser à tous ces ces gens détenteurs et du passeport rouge bordeaux et du passeport gondouanais. Tous ces gens qui te narguent avec leur carte vitale, ces gens qui ne passent pas au même guichet que toi à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Tu penses à tous ces autres gens avec leur passeport bleu marine avec l'aigle US dessus ou la feuille d'érable. Ce n'est pas de cette double nationalité que je te parle, mon ami. Bah oui, au Gondwana, on se comprend tout de suite hein, quand on te montre quelqu'un du bout du menton avec ces mots « il a la double nationalité ». Eh oui, ça n'a rien à voir avec ces deux passeports. Ça a tout à voir avec comment il a acquis tout ce clinquant que tu vois, tout ce bling-bling qui t'éblouit. Alors, ce gars, ben son premier passeport, c'est celui que tout le monde connaît. Et son deuxième, ben c'est celui qu'il cache parce que dans cette double nationalité en vogue au Gondwana, tu ne montres jamais ton deuxième passeport. Tu le gardes enfoui au fin fond de la nuit. Bon, tu as compris, hein, je crois. Bah oui, quand je dis passeport, nationalité, il faut comprendre travail, job, métier, profession, dans le sens comment tu gagnes ta vie. Double nationalité veut dire que tu as deux métiers, deux professions. Un métier légal, officiel, aux yeux de tout le monde, tes voisins, la police, les impôts, et un deuxième métier, pas trop légal, pas du tout même, hein, un métier officieux que tu caches à tout le monde, tes voisins, les impôts, la police, surtout parce que c'est un métier très très lucratif. C'est ce métier-là qui t'apporte tous ces 4x4, ces villas, ces voyages au-delà des océans. Mais comme en grammaire, ce deuxième métier doit se mettre à l'infinitif. C'est pour ça que les gens chuchotent ta double nationalité lorsque tu passes dans la rue. C'est plus prudent pour eux. En effet, les gars comme toi qui ont la double nationalité sont souvent très très dangereux. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'arrête net ici. Hein. À demain.
À demain. Merci Maman. Vous vous arrêtez, mais nous, on continue. RFI Matin. Bonjour André-Anne Mellard.
Bonjour Xavier. Bonjour à toutes et à tous. RFI Matin au programme. Aujourd'hui, la situation en République démocratique du Congo, la guerre commerciale de Donald Trump, le président américain qui reçoit ce mardi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Comme chaque jour, jusqu'à 9h, RFI Matin, ce sont des invités, des chroniques, des reportages, toute la rédaction à Paris et dans le monde mobilisée pour vous informer. Et ça commence par le journal dans une minute.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Sénégal, le gouvernement versera une première aide financière aux victimes et aux familles endeuillées par la répression des manifestations des dernières années du régime de Macky Sall. Que vous inspire ce geste? Quelles doivent être les prochaines étapes du processus d'indemnisation?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.